France Musique.
Bonne fin de soirée, Judith Chen, et à samedi prochain.
France Musique.
À l'improviste. Anne Montaron.
Bonsoir, à l'improviste vous emmène ce soir en l'église Saint-Merry à Paris. C'est dans ces murs que s'est déroulée à la fin du mois de septembre la troisième édition du festival Crac, initié par le pianiste et improvisateur Frédéric Blondy. Ça vient de craquelure?
Oui, c'est vraiment l'idée de départ. La craquelure, la fissure, c'est ce qu'on voit souvent quand on regarde sur ces images de terrain quand la terre a subi une forte humidité, puis derrière une forte sécheresse, tout d'un coup on voit toutes ces fissures et ce qui paraissait comme un pan lisse devient tout d'un coup un pan d'une grande richesse avec plein de fissures dans lesquelles beaucoup de choses peuvent se passer.
Eh bien, ces fissures et ces craquelures évoquées par Frédéric Blondy, nous allons ce soir les creuser, les agrandir, en voyageant d'une rive à l'autre du monde sonore. L'an passé, le Festival des Musiques Affranchies, le Festival Crac, avait articulé sa deuxième édition autour de la scène improvisée berlinoise, en invitant le Splitter Orchester. Cette troisième édition, au contraire, n'a pas évolué autour d'une idée fédératrice, d'un fil rouge. Crac a joué cette fois le jeu de la diversité de style et de genre pour mieux justement creuser ces fissures. C'est ce que nous explique Frédéric Blondy.
On a vraiment mis l'accent cette année sur l'idée d'une diversité. C'était un petit peu ça l'idée de mettre un sous-titre à ce festival des musiques affranchies, cette idée de sortir un petit peu des cloisonnements habituels qui nous sont un petit peu imposés à la fois par les institutions, par les logiques économiques. Et donc l'idée, c'est encore une fois de jouer cette carte-là, de faire découvrir des choses très très différentes à un public qui pourrait venir pour une raison et qui, étant là, va peut-être se tendre l'oreille sur quelque chose qui n'est pas si éloigné de ce dont il a l'habitude, mais qui est fait de manière très différente. Donc je m'étais dit que cette année, vraiment, il s'agissait de recroiser à nouveau un peu plus et de jouer d'ailleurs la carte de ce qu'on fait à l'année avec les rendez-vous contemporains. Y compris en terminant chaque soirée avec une rencontre son et image, puisque dans le cadre des rendez-vous contemporains aussi, à l'année, on diffuse du cinéma expérimental ou des fois des vidéos et du ciné-concert. Donc on avait envie de vraiment, quelque part, que ces 3 jours soient une forme de condensé de ce qu'on retrouve à l'année.
Pour les non-initiés sur ce que Frédéric Blondy appelle les rendez-vous contemporains. C'est un cycle de concerts et de performances proposé à l'année dans les murs de l'église Saint-Merry, une église pas tout à fait comme les autres, ouverte à la création contemporaine. La saison dernière, nous avions évoqué dans cette émission la personnalité hors norme du curé de Saint-Merry, Jacques Mérienne, et son désir d'ouvrir grand son église justement à l'expression contemporaine sous toutes ses formes. L'engagement de cette équipe, église et musiciens confondus, a pour conséquence directe que beaucoup de musiciens accueillis à l'année dans le cadre des rendez-vous contemporains ont envie d'y revenir à cause de la magie du lieu sans doute aussi. C'est le cas par exemple du pianiste anglais John Tilbury qui est devenu un fidèle de la programmation à Saint-Merry. La première soirée du festival lui faisait la part belle avec un concert ambitieux dans lequel il s'associe à de nombreux musiciens autour de la musique de deux grandes figures américaines du XXe siècle musical, Feldman et Cage.
C'est un pianiste qu'on retrouve depuis les années 60 dans la plupart des grands festivals de musique contemporaine et qui en même temps développe en parallèle une grande quantité d'expériences et d'exploration, d'expérimentation avec de nombreux projets, dont un des plus connus maintenant, c'est un ensemble AMM qui a beaucoup évolué d'ailleurs depuis sa naissance avec le compositeur Cornelius Cardew dans les années 60. Et qui est un personnage voilà, donc, vraiment fascinant, qui était venu il y a 2 ans interpréter les sonates et interludes pour piano préparé de John Cage, et qui était venu aussi à Saint-Méry il y a 3-4 ans faire le Palais de Marie et des pièces de Cardew et de Scampton.
Thank you.
autre fidélité, celle que Saint-Méry a tissée ces dernières années avec l'ensemble parisien Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal. Maxime Pascal n'avait jamais eu l'occasion de se frotter à l'univers sonore de John Tilbury. La rencontre a été évidente et poétique à la fois. Cette rencontre s'est faite d'abord autour de la musique de Cage, son concerto pour piano préparé et orchestre de chambre, puis autour de Morton Feldman. Le festival Crac a réussi le défi incroyable de rassembler aux côtés du pianiste John Tilbury et de Maxime Pascal les quelques 60 musiciens nécessaires à l'interprétation d'une œuvre de la fin des années 70 encore jamais entendue en France, Piano and Orchestra. Un gros effectif, donc, rassemblé dans le cœur de l'église Saint-Méry. L'ensemble Le Balcon retrouvait là les musiciens de l'orchestre impromptu et de l'ONCEIM, O-N-C-E-I-M, l'orchestre de nouvelle création, expérimentation et improvisation musicale. Frédéric Blondy.
Voilà, moi j'assistais aux répétitions et j'étais très très content aussi de voir l'évolution et à quel point très rapidement Maxime avait a compris ce qui se passait en termes sonores liés à la présence de John. C'est-à-dire qu'effectivement, il amène une couleur sonore à travers un toucher à la fois profond, extrêmement léger. Il a une sonorité au piano tout à fait particulière qui a donné vraiment cette patte sonore à ses interprétations de Feldman. Et même en orchestre, effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'il force un peu le trait pour faire face à la masse orchestrale. Et non, il reste vraiment dans cette sonorité extrêmement profonde, quelque chose tout de suite de méditatif. Alors c'est quand, pour le coup, cette pièce marchait bien, vraiment bien dans ce lieu. Et en fait, Maxime a donc tout de suite senti ce qu'elle pouvait amener, la direction qu'a amené John Tilbury dans cette musique, et a vraiment fait travailler l'orchestre dans ce sens. Il a beaucoup travaillé sur le geste instrumental, et j'avoue, pendant le concert, ayant vu les répétitions, j'ai été extrêmement touché par ce qu'ont réussi à faire les instruments à cordes, où on a vraiment eu l'impression que c'était comme des nuages ou du brouillard, juste. C'était vraiment très 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 beau.
Thank you.
De la musique contemporaine, dit-on, mais contemporaine de qui? De tous ceux qui, au milieu des années 70, allaient au concert pour découvrir la musique de Morton Feldman. Le pianiste anglais John Tilbury fait partie de ceux-là. Plus encore, il est devenu, au fil du temps, l'un des grands interprètes de la musique de Feldman. Nous l'écoutions ici dans un extrait de Piano and Orchestra de Morton Feldman, dans la version créée, je parle de création française, le 25 septembre à Paris par les forces cumulées de trois ensembles, Le Balcon de Maxime Pascal, L'Oncème de Frédéric Blondy et Le Concert Impromptu. Au piano, dans la partie soliste, John Tilbury et au pupitre de tout ce monde-là, Maxime Pascal. Pour mettre en bouche ce soir-là le public, le festival Crac avait proposé une première partie d'un caractère à la fois proche et lointain. Proche parce que les deux musiciens invités ont coutume de jouer justement sur l'espace et le silence, au point de les intégrer dans leur musique, et lointain parce qu'on quitte là l'univers de la musique écrite. Ces deux musiciens sont des improvisateurs au long cours. Il s'agit du percussionniste Lekuan Nin et du saxophoniste Michel Doneda. Et le voyage qu'ils ont offert au public ce soir-là était l'entrée en matière idéale à la musique de Cage et de Feldman.
Michel Doneda m'avait dit un truc qui me ferait vraiment plaisir, ce serait de jouer avec Nin en duo, ça fait longtemps qu'on le fait. Alors effectivement, moi je l'ai entendu de plusieurs reprises leur duo et ça a toujours été quelque chose d'extrêmement intense et fort. Il y a une telle fusion des sonorités, ils se connaissent à merveille depuis très longtemps. Ils ont cette possibilité tous les deux, au niveau des dynamiques, d'aller de l'infiniment petit à l'extrêmement fort. Donc ça leur laisse, enfin, il y a une marge de liberté sur le plan sonore qui est incroyable quand ils sont ensemble.
J'ai l'impression qu'ils ont vraiment joué avec ce décor et avec l'acoustique.
Oui, c'est vrai que surtout à l'heure où commençait le concert à 8h30, cette saison il fait encore jour, donc on a tout le plaisir d'avoir les changements de lumière à l'intérieur de l'église, celles qui viennent de l'extérieur, qui viennent se confondre avec les lumières générées par les éclairagistes. Et ils ont vraiment joué l'espace. Alors de toute façon, ce sont tous les deux de fervents défenseurs, hein, de l'espace qui... je les ai entendus souvent dire ça... qui est une vérité pour beaucoup d'improvisateurs, mais que voilà, leur instrument, le premier instrument en musique, c'est avant tout le lieu dans lequel on joue, hein, c'est l'air qui nous entoure, et l'acoustique du lieu, bien plus que les instruments avec lequel on va mettre cet air en vibration. Donc là, c'est vrai qu'on a pu voir que ce n'était pas juste un discours, à quel point ils pouvaient pousser cet exercice dans ces retranchements, et de voir à quel point... voilà. Ils ont pu faire sonner merveilleusement l'acoustique de Saint-Méry, et y compris jouer sur le déplacement, les différentes couleurs que donne. Alors là, il y avait trop de monde pour que le public puisse déplacer aussi, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant dans des lieux comme ça où la circulation du son est très particulière et complexe, à la fois de voir quand le musicien se déplace, ça génère effectivement beaucoup de choses très intéressantes, mais quand le public peut se déplacer aussi. Ce qu'on arrive à faire dans certaines soirées, c'est très intéressant aussi, parce que pour peu qu'on se déplace d'un mètre, on entend d'autres choses.
Thank you.
Les deux anciens complices, Michel Doneda et Lekuan Nin, ont fait vibrer leurs instruments, le saxophone et la percussion, dans des murs tout sauf neutres, le cœur de l'église Saint-Merry où s'est tenue le mois dernier la 3e édition du festival Crac. Alors, un esprit tout à fait particulier imprègne les festivals de musiques improvisées, ceux qui les fréquentent le savent. À l'improviste tente régulièrement d'en rendre la saveur, et quand je dis saveur, c'est sciemment. Un festival de musique improvisée est le moment privilégié pour que les festivaliers, justement, et les musiciens échangent librement autour d'un verre de bière, de vin et d'une nourriture souvent improvisée, elle aussi. Les festivals urbains ont sans doute un peu plus de difficultés à créer, à susciter cette convivialité. Alors les Parisiens qui ont fréquenté le Festival des Musiques Affranchies ou le Festival Crac, et les autres aussi, car le public venait parfois de très loin, ont été surpris de constater que cette saison, l'église Saint-Merry s'était transformée en lieu polyvalent. L'espace dévolu à la musique avait son annexe conviviale dans l'entrée de l'église où une buvette avait été aménagée pour satisfaire les papilles des visiteurs et assoiffés de créations sonores en tout genre.
Les années précédentes, on avait un petit peu hésité et puis on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on mette l'accent quand même sur la convivialité, sur cette possibilité d'échange et de rencontre. Et donc, on a donc mis en place dans la chapelle la chapelle des communions, qui est devenue d'ailleurs depuis quelques années la chapelle des expositions. C'est pas de nous, c'est vraiment la communauté qui a mis ça au point, comme c'est un bel endroit avec des puits de lumière, des verrières sur le toit. Donc c'est l'endroit le plus un des endroits les plus lumineux de l'église, qui se prête merveilleusement bien, faut dire, aux expositions. Et donc nous avons confié à quelques amis de s'occuper de la déco de cet espace et d'essayer de recréer des petites tables avec ce qu'on avait sous la main. Et il s'avère que comme Marguerite, qui organise les concerts de l'année avec moi, est décoratrice, qu'elle a une flopée de tissus assez amusants et qu'il y avait aussi une amie architecte qui s'est jointe, qui avait pas mal d'idées, la chapelle s'est retrouvée très colorée.
France Musique.
Nourrir l'esprit et nourrir les ventres aussi. Le festival Crac le sait bien, le public ne se résume pas à une paire d'oreilles. D'ailleurs, c'est à notre corps tout entier que s'adressait la pièce Gruidée proposée le deuxième jour du festival. Gruidée est une pièce d'orchestre spécifiquement imaginée pour les musiciens de l'ONCEM, orchestre d'une trentaine d'improvisateurs résidant à Saint-Méry. Jusqu'à présent, l'ONCEM avait joué exclusivement des compositions ouvertes imaginées par l'un des musiciens de l'orchestre. Eh bien, cette fois, l'orchestre a passé commande au compositeur américain Stephen O'Malley. La création de Gruidée est donc un nouveau pas de cet orchestre dans une musique structurée qui prend en compte cependant la singularité de parcours, la singularité de jeu, de langage de chaque musicien de l'orchestre. Et la partition qui se trouvait sur le pupitre des musiciens de l'ONCEM donnait juste des indications d'harmonie, de tonalité pour chaque pupitre, des indications de mode de jeu, de durée et de dynamique.
On était du point de vue de l'orchestre dans un terrain qu'on connaît déjà avec cet orchestre qui est, on pourrait dire, celui du drone, de travailler sur des tenues avec pour beaucoup, voilà, une grande partie de l'orchestre effectivement qui travaillait sur ça, sur le développement de son tenue, alors qu'effectivement les percussions avaient vraiment un rôle pour le coup d'impact, de rupture, de saisie, voire sur toute la dernière partie, là pour le coup vraiment un rôle rythmique avec une partition justement de superposition polyrythmie sur un tempo extrêmement lent, qui était là une couleur qu'on n'avait jamais explorée effectivement avec l'orchestre. Et je dirais que c'était effectivement les deux grandes nouveautés pour nous dans la proposition de Stephen, c'était effectivement cette opposition entre quelque chose de vraiment percussif de l'ordre de l'événement qui venait se joindre à ces tenues, et en même temps les glisser, le slide comme c'est écrit sur sa partition en anglais, qui consistait donc à des sortes de grands glissements d'accords qui pouvaient prendre de 10 secondes à plus d'une minute, et qui donnait effectivement une sorte d'effet un peu la Ligeti ou la Xenakis par moment, de grands glissés d'orchestre, et qui marche, alors là pour le coup vraiment très très bien en orchestre, ça donne des effets d'aspiration, comme une sorte de trou tout d'un coup dans lequel on serait tous aspirés, qui sonne vraiment très 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 bien. C'était vraiment des beaux moments de la pièce, je trouvais aussi.
L'Oncem, initié par Frédéric Blondy, a offert au public de Crac une nouvelle étape dans son processus de création. Un travail sur plusieurs mois avec un compositeur qui a accepté de jouer le jeu d'une écriture taillée sur mesure, donc pour les musiciens de cet orchestre. Le 26 septembre dernier, c'est dans la musique de Stephen O'Malley, sa pièce Gruidée, que l'orchestre s'est fait entendre. Une texture sonore au lent développement qui convient bien à l'approche plastique des sons que cultive cet orchestre. L'improvisation n'avait pas dit son dernier mot lors de cette troisième édition de Crac. Elle imprégnait l'esprit du concert du duo norvégien Streifen Junco, réunissant le saxophoniste Espen Reinertsen et le trompettiste Elvins Lønning, deux musiciens originaires d'Oslo qui ont fait tous les deux leur apprentissage au conservatoire de jazz de Trondheim. Les jeux de fusion de timbres sont ici très importants, mais ces jeux sur la couleur n'empêchent pas des jeux sur le rythme. Alors on s'échappe là de l'univers arythmique de la musique précédente.
Et effectivement, ce qui est très touchant dans leur duo, c'est la relation qu'ils ont réussi à établir où on a vraiment l'impression qu'ils jouent un seul et même instrument. C'est-à-dire que la trompette ou le saxophone, ça devient très difficile à repérer. Et d'ailleurs, souvent en concert, bon, ce n'était pas le cas à Saint-Méry, mais souvent ils utilisent même un seul micro pour tous les deux. Donc ils gèrent parfaitement cette distance, la manière dont chaque instrument se diffuse pour mélanger et vraiment fournir presque quelque part qu'un seul objet sonore qui résulte des deux. Même si la musique parfois est structurée, hein, je pense par exemple qu'on en leur rappelle, où on voit bien que dès le départ, ils partent tous les deux sur un mode de jeu extrêmement précis. la manière dont la musique se développe est improvisée. Donc on pourrait dire qu'on a les mêmes problématiques en musique indienne, ils partent bien sur un raga ou sur un truc, sur un élément donné, et puis ils improvisent dessus. Là, voilà, à part qu'en fait, il y a ce phénomène qu'on part sur un élément qui est une création, et ensuite, la manière dont elle se développe fait appel à l'improvisation. Mais moi, je suis très attentif à ce genre de démarche. Enfin, je trouve que c'est un endroit aujourd'hui où... où la richesse de la création se joue beaucoup sur cet entre-deux, sur voir qu'est-ce qui est bénéfique dans telle approche, dans telle pratique, voir où sont les écueils, voir dans l'écriture qu'est-ce que ça apporte, où est-ce que sont les enrichissements, où sont aussi les limites. Voilà, parce qu'effectivement, par exemple, la musique de ce duo, même si on peut dire qu'elle est plus totalement improvisée, je souhaite bon courage à celui qui voudrait l'écrire.
La sonore de la trompette d'Elvint Lønning et du saxophone de Espen Reinertsen, deux musiciens norvégiens dont on peut retrouver la musique sur le label Sofa et qui seront en concert en France, à Fresnes-en-Wavre, demain, le 26 octobre. Autre musicien norvégien invité par le festival Krak, le guitariste Kimmir et le percussionniste Ingar Tsar, déjà entendu dans cette émission. Ils retrouvaient à Saint-Méry le flûtiste australien Jim Denley, avec qui ils ont initié le trio Mural.
Jim Denley, effectivement, d'ailleurs a vécu pendant pas mal d'années en Europe, en Belgique, et est retourné maintenant en Australie, fait partie de toute cette génération. Alors elle commence à être assez plus qu'une génération, parce qu'il fait partie des aînés, un peu, je dirais, des improvisateurs australiens qu'on a vu débarquer en Europe et qui sont très nombreux maintenant. Il y a vraiment une grande richesse. De la part de ce continent. Alors malheureusement, ils sont loin. Ils sont très très loin.
Ils se rapprochent de nous en permanence.
Oui, oui, oui.
Mural, c'est une musique d'une grande délicatesse qui évoluait le 26 septembre à Saint-Méry autour des images du vidéaste Kjell Bjørgengen. la musique de Murrow dans les murs de l'église Saint-Merry. Frédéric Blondy fait partie de ceux qui ont été saisis d'emblée par la poésie du disque réalisé par ce trio dans la chapelle Rothko de Houston, qui tient son nom du fait qu'elle abrite justement des œuvres de Mark Rothko. La tentation était forte d'inviter ce trio sous d'autres voûtes, celles de Saint-Merry. Autre trio d'improvisateurs de choc invité à cette troisième édition de Crack, le trio Conkpack, régulièrement invité en France et qui réunit deux musiciens anglais au parcours impressionnant, le batteur Roger Turner, le guitariste clarinettiste Tim Hodgkinson, deux figures donc de la musique improvisée anglaise, et le claviériste Thomas Lane, étonnant spécialiste du synthétiseur analogique. Conkpack développe d'un concert à l'autre, d'un disque à l'autre, une musique nerveuse, électrique, vivante. Très vivante même, une musique faite d'attaques, de ruptures, de brisures, une musique qui ressemble aux sonorités du nom adopté par le groupe, Conkpack.
C'est un trio que j'avais écouté il y a, je pense, peut-être la première fois en 2001 au festival Musique Action, et j'avoue que ça m'avait vraiment sidéré. J'avais été bouleversé par la musique qu'ils avaient proposée, la vitesse à laquelle ça jouait, la présence sur scène, la richesse sonore. Enfin, c'était un peu un ovni qui m'avait traversé ce soir-là. Et donc, j'étais très content de pouvoir les faire venir, même s'ils ont proposé aussi une musique tout à fait différente de celle que j'avais entendue à ce moment-là. Et malgré tout, là, un concert très en subtilité, tout en finesse. Et ce qui montre aussi toujours, c'est les grands improvisateurs, ces grands musiciens sont toujours quelque part en train de chercher, d'explorer, et ne sont pas forcément là où on les attend, mais toujours en train d'essayer d'aller ailleurs, de proposer d'autres choses. Et voilà, par contre, toujours fait avec autant de talent.
La musique de Kong Pak toute griffe dehors, Tim Hutchinson, Thomas Lane et Roger Turner n'ont pas déçu le public du festival Crack venu les écouter le 27 septembre dernier. On a bien retrouvé chez chacun des trois musiciens cette façon d'être à la fois aux aguets, en même temps que de creuser son sillon propre sans se faire envahir par l'autre. Improvisation de haut vol donc, qui avait sa place au Festival des musiques affranchies, proposée par Frédéric Blondy et son équipe. Un grand merci à Augustin Muller qui a saisi sur le vif toutes ces musiques affranchies et dont les micros témoignaient aussi de la vie autour du musical, la vie propre de l'église, avec les voix du public, leur toux, les chaises et les pupitres qui accompagnaient la musique en s'improvisant eux aussi. Cette émission se referme et si elle vous a transporté d'une rive à l'autre du monde sonore, c'est grâce à Françoise Cordé, Olivier Dupré et Soisic Noël. Minuit sur France Musique, à cette heure-là, l'église Saint-Méry dort et vous, eh bien, vous ne devriez surtout pas dormir. France Musique a encore de la musique à vous offrir.